Bonjour, bienvenue à Aujourd'hui sa parole, le podcast de Lectio Divina de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Nous sommes rendus au chapitre 4 de la première lettre aux Thessaloniciens. Donc nous sommes dans cette Lectio Divina. Ce n'est pas d'abord une étude biblique, mais c'est une invitation à lire avec assiduité, dans l'intégrité des lettres ou des livre de la Bible, parce qu'on est habitué de recevoir la parole de Dieu d'une manière morcelée, que ce soit dans la liturgie ou dans les livres de piété. Mais il est important, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, que la parole du Christ habite en nous dans toute sa richesse. Donc il faut lire, relire, reprendre, apprendre par cœur, souligner, parfois même étudier, aller voir les notes de bas de page dans votre Bible, les parallèles. C'est tout cela qui nous permet d'assimiler cette parole de Dieu, comme Dieu l'a dit à Ézéchiel, « Mange ce volume et va parler à la maison d'Israël. » Et je le mangeais et il était dans ma bouche doux comme du miel. Alors, dans ce chapitre 4, Paul nous dit « Vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà, faites donc de nouveaux progrès. » Donc, Paul les invite à plaire à Dieu. Plus tard, il dira dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, « Je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir votre corps en hostie sainte, agréable à Dieu. » C'est là le culte spirituel que vous devez rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme, vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît. Donc, fin de la citation, donc ce qui fait plaisir au Seigneur. Mais cela suppose une offrande totale de notre être. Car, Paul continue donc au chapitre 4, « La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté en vous gardant de la débauche et en veillant à vous comporter avec votre femme dans un esprit de sainteté et de respect, etc. » Donc la volonté de Dieu, c'est la sainteté, non pas la débauche. Alors, on a vu qu'au début de la lettre, Paul dit « Vous vous êtes détournés des idoles pour servir le Dieu vivant. » Parce que aujourd'hui, on est dans un, on pourrait dire, dans un érotisme culturel, c'est-à-dire qu'il y a une hypersexualisation dans les communications. Mais à l'époque où Paul écrit, on pourrait dire que c'est un érotisme cultuel, c'est-à-dire qui est inscrit même dans le culte païen. Donc il y avait de la prostitution sacrée, des cultes de fécondité qui donnaient lieu justement à toutes sortes de débauches et même à des orgies, c'est-à-dire des moments de débauche organisés pour offrir comme un sacrifice spirituel à Dieu. Donc Paul dit non, offrez votre personne dans la sainteté et que le renouvellement de votre jugement vous transforme pour vous faire discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui lui plaît. Donc ce qui plaisait à l'idolâtrie, au polythéisme, cette déchéance, bien, ce n'est plus possible aujourd'hui dans notre expérience chrétienne. Alors, en effet, il dit, si Dieu nous a appelés, ce n'est pas pour que nous restions dans l'impureté, mais que pour nous vivions dans la sainteté. Et Saint Paul dira aussi aux Éphésiens, au chapitre 4, un passage très important, verset 22, il dirait « Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, de l'homme ancien qui est en vous, corrompu par ses désirs trompeurs. Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l'image de Dieu. » Alors Paul, dans ce parallèle donc d'Éphésiens, ajoute un important petit détail, laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. C'est-à-dire que l'expérience chrétienne, c'est celle que la justification, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu, nous a donné cette inhabitation divine. Notre corps est devenu un temple du Saint-Esprit. Et à partir de cette présence divine, nous pouvons nous laisser conduire intérieurement. C'est-à-dire que nous pouvons chercher la volonté de Dieu tout au long de notre vie. Mais l'impureté fait écran à cette transparence, à cette inhabitation divine. Pour ceux qui, comme moi, se sont convertis et qui sont passés de l'esprit du monde à l'esprit de Dieu, on voit très bien qu'on doit faire ce choix. Soit on veut retourner aux vieilles habitudes, soit on doit aller à cette sainteté, à cette inhabitation du Saint-Esprit qui permet de jouir de cette paix intérieure et de se laisser guider intérieurement par un esprit renouvelé. Voilà. Alors je saute rapidement à l'autre partie importante, celle de l'amour fraternel. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que l'on vous en parle car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est ainsi que vous agissez. Donc, cette inhabitation divine qui est permise quand on renonce à la débauche et à l'impureté, eh bien, donne son plus beau fruit dans la charité fraternelle. Saint Jean le dit dans sa première lettre, un des plus beaux passages, je trouve, du Nouveau Testament, au chapitre 4, versets 7 et suivant. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Donc, cette expérience de foi qui nous a détournés des idoles, qui nous a justifiés, bien fructifie dans ce signe important qui authentifie la qualité de notre vie chrétienne, c'est la charité fraternelle. Et puis, la dernière partie de ce chapitre est importante parce qu'elle va parler du salut final. Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez désespérés comme de ceux qui se sont endormis dans la mort. Alors, Paul nous met devant notre espérance chrétienne. Il se trouve que ce défi était celui de l'attente du Christ, c'est-à-dire que comme les chrétiens de cette époque pensaient que le Christ était, même certains croyaient qu'il était déjà venu, ils ne comprenaient pas ce qui se passait pour ceux qui étaient morts, car la venue glorieuse de Jésus devait permettre donc cette entrée dans sa gloire. Mais voilà que certains sont morts avant que le Christ revienne. Donc Paul donne une réponse à cette interrogation. Ceux qui sont endormis ressusciteront, c'est-à-dire qu'ils retrouveront l'intégrité de leur corps et nous-mêmes, nous irons sur les nuées du ciel à sa rencontre. Il ajoute au signal donné par la voix de l'archange à l'appel de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts unis au Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alors, les descriptions que Paul donne, le son de la trompette, l'envol dans les nuées, etc., ben, ça procède un peu du vocabulaire apocalyptique de l'époque. Alors, est-ce qu'il faut prendre ça à la lettre? C'est une bonne question. Mais l'idée essentielle, elle est vraiment dans la dernière phrase. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Voilà notre grande espérance chrétienne, ce Dieu qui est venu parmi nous par son incarnation, Emmanuel, eh bien, et qui nous a laissé l'Esprit Saint qui sera pour toujours avec nous. Eh bien, il nous fait cette promesse que notre bonheur définitif sera que ceux qui se sont endormis avant nous et nous-mêmes, que ce soit en allant directement dans la gloire ou après notre mort, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Amen.